franceinter.fr.
Ça se reconnaît un écologiste.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils ont 5 ans.
CO2.
Ça a des lunettes, ça a une barre, ça a un cahoué.
En amour.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Denis Chessou.
C'est une recette du pays.
Sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, une émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, avec aujourd'hui Alexandre Chenet et Patrick Henry à la technique, et assisté de Stéphane Combe, c'est cette semaine Caroline Lebossé qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur. Valentine. Ah, Valentine, c'est la jolie vache de Gascogne, emblème donc du salon de l'agriculture, et qui commence à trépigner. Je veux revoir mon sud-ouest, je veux respirer l'air de mes collines. Car le périphérique, les flatteries sur l'encolure, la compétitivité agricole, la PAC, les candidats, les gens qui me prennent pour un taureau, ceux qui me demandent « mais c'est où le stand des pandas de Chine ?» Oui. Eh bien moi je veux meugler, viens, à la prairie, il y a le printemps qui chante, eh oui. Alors ici, il n'y a pas trop d'agriculteurs empoisonnés aux pesticides, bien qu'ils aient quand même défilé. Pas trop de problèmes de prix du foncier qui empêchent les jeunes de s'installer. Pas d'algues vertes à côté des cochons bretons. Et d'ailleurs, à ce sujet, en ce début de semaine dans l'actualité, eh bien, la méchante Cour de justice européenne appelle la France à sa barre pour ses efforts insuffisants dans la lutte contre la pollution de l'eau. Ça s'appelle se faire récupérer par la patrouille. Vos nitrates, vos cultures de laitue sauvage dans les baies des Côtes d'Armor, on en a assez. Vous devez vous conformer à la directive européenne de 1991 sur les nitrates d'origine agricole. On ne vous a pas pris en traître depuis le temps. La Grande Bleue, vous l'avez déjà en Méditerranée. On ne vous autorise pas en plus la Grande Verte en Bretagne. Et ne faites pas passer cela pour du maraîchage en bord de plage. Même vos sangliers locaux n'y croient pas. Et puis le président candidat qui d'un côté s'enorgueillit du bilan de son Grenelle et de l'autre assouplit les règles d'épandage d'azote, permet plus facilement l'extension des porcheries, trouve qu'il y a trop de règles tatillonnes dans la politique de l'eau, évidemment du côté de Bruxelles. Ça énerve. Alors chez nous, c'est ainsi que le ver s'impose sur la scène politique, par les algues. Donc avouez que c'est ballot. Alors quelques baies seulement, on se calme, sont touchées en Bretagne. C'est pas du tout toute la Bretagne, mais le contribuable, figurez-vous. On a aussi assez de payer cher pour de maigres résultats de reconquête des eaux. Et en fait, il paie pour acheter la paix sociale, une profession valeureuse, souvent en désespérance, et qu'il faut soutenir, oui, mais sans doute autrement. Et elle en pense quoi, elle, Valentine? Eh bien que ça pourrait coûter à la France quand même 28 millions d'euros d'amende. Oui. Et pourtant, la chasse aux voix bat son plein au salon de l'agriculture. Et l'on parle de tout sauf de ce qui fâche. Et nos jolies vaches lustrées à grands coups de langue et de queue s'en battent les flancs, arrosant de gouttelettes de bouse, premier choix, la belle assemblée cactante parisienne que nous sommes. Et Valentine se dit surtout « Allez, encore un jour, et c'est la quille !» Alors pour parler de montagne dans quelques instants, eh bien nous aurons Claude Comet, Serge Gros, Éric Fournier, le maire de Chamonix. Nous aurons Le Monde Associatif avec Freddy Mignan. Et puis je vais vous emmener faire une petite balade aussi dans cette émission où il faut quand même prendre l'air du côté du glacier blanc.
Là c'est le glacier qui est en train de, sous nos yeux, de fondre. On voit très bien les moraines ici sur les côtés qui sont beaucoup plus hautes que le glacier. Elles nous indiquent très précisément la hauteur qu'occupait le glacier il y a quelques dizaines d'années seulement. Le glacier là il est en train de faire une sacrée cure d'amaigrissement.
Voilà. Donc ce sera dans le département des Hautes-Alpes, au-dessus du pré de Madame Carle, donc ce glacier blanc. Mais auparavant, et on va aussi parler des montagnes avec un homme que vous connaissez bien, mais ça va nous emmener plus loin que la France. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Nous allons partir dans un tout petit pays, enfin 40 000 km², c'est quand même grand comme la Suisse, qui s'appelle le Bhoutan. Et vous nous en aviez parlé, entre autres dans votre livre « C'est vert et ça marche », on en a parlé plusieurs fois. Parce que ce Bhoutan, avec donc cette royauté, il doit y avoir un peu plus de 2 millions d'habitants me semble-t-il, a inventé le bonheur intérieur brut.
Oui, ce pays qui est coincé entre l'Inde et la Chine dans l'Himalaya, se singularise par le fait qu'il est toujours en résistance par rapport aux critères de l'ONU en ce qui concerne le développement. L'indice du développement, c'est l'évolution du produit intérieur brut. Et le roi du Bhoutan dit qu'il voudrait que les citoyens de son pays soient heureux. Et donc, il a inventé le concept de bonheur intérieur brut. Et je trouve ça tout à fait intéressant.
Le BIB.
Le BIB, c'est le BIB, oui, c'est ça. Alors, ils sont très branchés sur l'écologie, naturellement, très branchés aussi sur les libertés démocratiques, sur l'émancipation des femmes, sur la nature. Et ils ont des problèmes.
Ils sont aussi en conflit avec le Népal, mais ça, c'est, voilà.
Oui, ils ont des problèmes en ce qui concerne leur propre pays, parce que c'est un pays qui est comme un immense escalier qui part de 300 mètres au sud pour monter à 7000 mètres au nord, et ça sur moins de 300 kilomètres. Donc c'est un pays en pente, pentu. Naturellement, dans l'Himalaya, il y a des lacs de montagne. Alors ces lacs de montagne sont alimentés par la fonte des glaciers. Cette fonte des glaciers s'accélère. Les glaciers reculent en moyenne de 20 à 30 mètres par an.
Donc les lacs se remplissent.
Et par conséquent, oui. Comme la glace fond, les lacs se remplissent. Et la crainte, c'est qu'ils débordent. Alors s'ils débordent, ça donne effectivement des crues d'un genre tout à fait particulier. Puis ça peut emporter des villages, ce qui déjà est arrivé en 1994.
On n'est plus dans le bonheur, là.
Alors, on n'est plus dans le bonheur du tout. Mais il y a pire, c'est qu'on peut imaginer que non seulement les lacs débordent, mais qu'ils emportent leurs digues naturelles. Plus l'eau est haute, plus la pression est évidemment très forte. Et comme ces barrages sont des barrages naturels, des moraines glaciaires, si un barrage lâche, c'est tout le lac qui se déverse d'un coup sec vers les étages inférieurs. Et donc, c'est une catastrophe terrible.
On ne peut pas faire grand-chose parce qu'en fait, les hélicoptères ne peuvent pas forcément travailler à cette altitude.
Ils ne peuvent pas atterrir, surtout, ouais. Parce qu'il n'y a pas de terrain plat. On est en haute montagne. Donc, les gens qui vont travailler pour essayer de renforcer les digues et pour essayer aussi de faire des canaux de dérivation pour que les lacs ne se remplissent pas trop, ils sont obligés de monter là-haut à pied pendant des jours et des jours. Donc, c'est des conditions de travail en très haute montagne qui sont extrêmement difficiles. Alors, ils n'ont pas que ce problème-là, ils en ont un autre. C'est qu'à un moment donné, les glaciers ont fondu pour de bon. Oui. Et ça, c'est plus lointain.
Et là, ils n'auront plus d'eau.
Alors, ils n'auront plus d'eau du tout. Alors, ça sera un problème très grave. C'est un problème d'écologie à très long terme.
Après les inondations, les emportements, il y aura les sécheresses.
Il y aurait les sécheresses. Et surtout, il faut se souvenir que les grands fleuves d'Asie, que ce soit le Gange, le Brahmapoutre, en particulier dans ces régions-là, sont alimentés par les glaciers. Et voilà, en perspective, donc, un problème de gestion de l'eau qui, dans ce petit pays, est vraiment très compliqué. En plus, les cultures en haute altitude sont des cultures irriguées. Irriguées, donc ça prend beaucoup d'eau. Voilà, alors ce petit pays a dans sa ligne de mire la question comment allons-nous gérer convenablement l'eau.
Donc d'un côté, on a Tuvalu, symbole aussi de la montée des eaux, cette fois-ci dans le Pacifique, une île qui est recouverte par l'eau. Et puis en altitude, on a ce bouton, et le point commun, c'est ce réchauffement climatique.
Tout à fait. Alors ils ont un atout, c'est qu'ils ont beaucoup de forêts. Et le fait qu'ils ont beaucoup de forêts fait qu'il n'y a pas trop d'érosion. C'est un autre problème, ça. C'est que s'il n'y avait pas de forêts, quand les pluies sont très fortes, en période de mousson en particulier, il y a une érosion terrible et c'est des fleuves de boue qui descendent cette fois-ci. Donc le fait qu'il y a beaucoup de forêts, il y a 80% de forêts, c'est énorme. Le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'accumulation de gaz carbonique dans l'atmosphère, parce que c'est un des pays qui ne charge pas l'atmosphère en gaz carbonique parce que le gaz carbonique est absorbé par les forêts, et c'est un pays qui ne craint pas trop l'érosion parce que les forêts protègent les sols, donc ils ont des atouts quand même. Et c'est sur ces atouts-là qu'ils vont devoir jouer.
Voilà, on peut saluer l'article de Julien Bouissou qui était paru donc au mois de novembre dans Le Monde, qui s'appelait donc des tsunamis de montagne donc menacent le Bhoutan. Merci Jean-Marie et à très vite. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Alors on ne va pas transposer le Bhoutan aux Alpes, aux Pyrénées, au Massif central, parce qu'ils n'ont pas trop de ski, si vous voulez, ni d'urbanisation au Bhoutan. Mais la montagne est notre thème aujourd'hui, après cette chanson. The night gets darker, no, not like it ever was. Those waves are hitting harder against the rocks, against the shore. But I'm fading fast tonight. Just say those words, I wish I heard. My eyes start to get so white and wild. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight.
night gets colder, now not like it ever was. And those men are pushing harder against my thighs, against my throat. And I'm fading fast tonight. Just say those words, I wish I heard. My eyes start to get so wide and well. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. Just swaying over everything under the dance hall lights. Well, I spy that man, he want that woman, I want his wife. But I'm fading fast tonight. Look over your shoulder, see them boys learn how to fight well. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. I said it's gonna be a whole lot of fun tonight. The night creeps faster, now on bended hands and knees. And as the light breaks in, I'm lying between the wall and my lover's knees. But I've faded fast tonight. And though I'm broken tired, I've had one hell of a ride. Well, you know it's gonna be a whole lot of fun tonight. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. Well, I kissed my baby and we put out the light. Well, I kissed my baby.
C'était Liz Green sur France Inter, Midnight Blues. J'espère que vous allez bien. Peut-être rentrez-vous de la montagne. Eh bien, justement, nous en parlons.
CO2, mon amour.
Eh, ça ramène les poumons, hein ?
Allez, on y va !
J'en ai plein les skis, moi !
Cachez sur les genoux. Léon,
on va.
Voilà, oui, ça on ne peut pas s'en empêcher, je le sais bien. Et la France est donc géographiquement, on le sait, un pays, on va dire peut-être avant tout maritime et campagnard, mais il est aussi très montagnard. Lorsque vous prenez la surface du Massif central, des Alpes, des Pyrénées, des Vosges, du Jura, vous rajoutez pour faire bon poids un bout de Morvan, la Corse, sans oublier nos amis de la Réunion, et ben vous avez pas loin de 25% du territoire avec cette massif. Alors, pour beaucoup de gens, montagne égale air pur, égale terrain de glisse, égale ski en hiver et randonnée au calme en été. Certes, mais c'est aussi un lieu de vie, d'habitation, c'est un milieu agricole, un milieu d'innovation. Et puis ça bouge, donc on s'interroge sur son avenir, sur un territoire qui est un petit peu monolithique, faut le dire, avec un territoire qui subit plus vite et plus fortement le réchauffement climatique. Alors pour nous parler de cette montagne demain, donc quatre invités, je vais commencer par Serge Gros. Bonjour Serge Gros.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des CAUE de l'ISAER, autrement dit des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Alors les CAUE, en fait, ce sont des professionnels qui sont rassemblés dans une structure pour favoriser la qualité du cadre de vie et vous conseiller, vous former, vous aider les collectivités pour qu'elles aient après, avec pas mal de pertinence, des projets, on va dire, solides qui tiennent la route. Et vous n'êtes surtout pas maître d'œuvre, donc ça vous donne quand même aussi une belle indépendance. Je fais très simple là-dessus. Donc vous avez d'abord un grand merci à nos amis de France Bleu Isère, près de la gare de Grenoble qui vous accueille. Pour qu'on compose un peu le décor, d'où vient-on avec l'histoire de la montagne? Si on se retourne, qu'est-ce que l'on peut dire?
Ce que l'on peut dire peut-être pour commencer, c'est qu'en moins d'un siècle, la montagne a subi les transformations les plus marquantes et parfois les plus irréversibles de toute l'histoire de l'humanité. Alors le bilan est mitigé, il y a à la fois des éléments très positifs sur l'économie, la connaissance, etc. Et puis des effets qui sont aujourd'hui tout à fait préoccupants. Et donc peut-être ce que la montagne a de singulier, vu de notre profession et de nos passions, c'est que finalement tout est amplifié en montagne. Elle constitue pour nous une sorte de baromètre de l'évolution des territoires, un peu comme vient de le dire Jean-Marie Pelt sur le bouton. Je crois qu'elle est le témoin finalement de l'évolution non seulement de nos modes de vie, mais aussi des phénomènes qui dépassent finalement nos territoires. Et la question des changements climatiques en est un. Et donc le bilan est très contrasté parce qu'il n'y a pas une montagne, mais des montagnes avec des aventures, des épopées très, très différentes. Alors peut-être pour dire deux mots sur... une sorte de rétrospective, vraiment en grand trait, sur les cycles de vie qu'a connu la montagne. Elle a été, un petit peu comme sur tous les continents, jusqu'au 19e, une montagne pastorale, paysanne, qui a composé avec la géographie, la pente, le climat, la neige pendant en général 6 mois de l'année, et puis les risques naturels, ce qui fait que la vie était dure, dangereuse, etc. Et puis au 19e siècle, je crois que les populations se sont tournées vers la ville compte tenu des difficultés de résider et de survivre en montagne, qui étaient très, très peuplées à cette époque. Et puis sont tournées vers les villes qui, elles, se développaient et développaient de véritables innovations et connaissaient l'ère
technologique. On a eu, entre autres, l'avènement de l'hydroélectricité.
Hydroélectricité en montagne, c'est vrai que les montagnes là sont le support des grandes inventions, conduites forcées, qui permettent de faire tourner des centrales et des usines. Et puis début du XXe siècle, je crois qu'il faut dire que là on assiste à une véritable découverte de la nature, du paysage et de la santé, puisque les villes étant de plus en plus polluées dans les plaines, elles sont les lieux des épidémies, la prophylaxie de la tuberculose, etc. Et on assiste à cette époque, avec cette découverte de la montagne, à une première phase d'équipement dont il faut se rappeler, qui a parfois disparu malheureusement, avec des trains, des tramways, qui emmènent des milliers de personnes à la découverte des montagnes. Les premiers téléphériques, les trains à crémaillère, il en existe encore sur un certain nombre de territoires, et en particulier autour du Mont-Blanc, mais même dans le Grésivaudan à côté de Grenoble, il nous reste là encore des funiculaires qui sont des outils fantastiques pour accéder à la pente. Et donc là, sanatorium, le climatisme, enfin je vais un petit peu vite, mais le bon air fascine les populations urbaines et finalement permettent de soigner les enfants dans des colonies de vacances, etc.
Et là, donc, on a une vision quand même sociale, c'est-à-dire qu'on pense véritablement à tout le monde. Et puis alors, dans les années 60, on a un plan neige donc, qui arrive, qui, il faut le dire, permet de redynamiser la montagne, ça évite l'exode rural. Et donc là, que se passe-t-il ? Parce qu'au départ, cette neige, ce ski, c'était quand même à l'attention de tout le monde.
Absolument. Je crois que ça on l'oublie malheureusement un petit peu aujourd'hui. Le plan neige des années 60 est un véritablement mouvement de l'après-guerre, très généreux, très tourné sur la santé, sur une société qui se reconstruit. Et là, la France met au point un dispositif à très grande échelle, basé sur un modèle où finalement on installe des morceaux de ville, là où on n'avait jamais construit auparavant, sur des pentes nord, pour être ski au pied des remontées mécaniques, avec des investissements immobiliers qui vont être considérables, des innovations architecturales et urbaines qu'il faut souligner, puisque finalement on évite, ce qui aurait pu être bien pire que ce qu'on connaît, le développement de petits chalets qui auraient pu complètement miner oui. et miter l'ensemble des territoires montagnards. Donc là, on rassemble dans des immeubles,
concentré les choses parce qu'on avait quand même déjà la pensée de la valeur du foncier, qu'on ne voulait pas qu'il y ait de mitage partout.
On était peut-être plus qu'aujourd'hui dans un respect, dans une compréhension de la tradition de la montagne. C'est-à-dire, on sait que le foncier, il est important parce qu'il va falloir développer des domaines de montagne et de ski. Et donc, pas question, entre les pentes abruptes du bas de la vallée et puis le domaine skiable, on a parfois une simple courbe de niveau pour aller installer toute une station. Et on va souvent, d'ailleurs, faire des vrais choix à cette époque où on va laisser les voitures avant la station et on va oublier la voiture pendant 8 jours, le temps des vacances. On a vraiment des modèles qui, finalement, ont un très, très grand succès. On assiste à une véritable ruée vers l'or blanc. On l'a appelé l'or blanc. C'est-à-dire que c'est une sorte de revanche de l'histoire. Et cette spirale qui fait qu'on installe parfois 30, 40, 50 000 lits bouleverse totalement cette économie montagnarde qui devient florissante, qui... finalement permet aux montagnards de revenir vers leur montagne, et aux montagnards et à bien d'autres, et qui profitent pendant, à l'époque, 5 mois, aujourd'hui on n'a plus que 3 mois, qui profite finalement de la découverte de la glisse dont vous parliez à l'instant.
Alors, rêve de montagne partagé au début, donc on va dire période des 30 glorieuses. Maintenant, on est rentré dans les 30 financières, donc ça s'est un petit peu gâté. Et surtout, ce que vous dites, je crois, les uns les autres, c'est qu'on n'a pas une véritable pensée sur le fait montagnard aujourd'hui. Et donc, ça, c'est votre point commun donc, à vous quatre qui allez intervenir, c'est d'essayer de penser la montagne un peu autrement. Claude Comet, là, je me tourne vers vous comme si vous étiez à côté, mais vous êtes à France Bleu, pays de Savoie. Donc là, vous n'êtes pas à côté de la gare, mais vous êtes au pied du château des Ducs de Savoie. Donc, qui sont pas loin. Vous êtes conseillère régionale déléguée à la montagne et au tourisme. Vous êtes l'ancienne créatrice de Alpes Magazine, que l'on peut d'ailleurs toujours lire. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Pourquoi effectivement vous souhaitez penser la montagne différemment?
Bonjour Denis, bonjour à tous. Bah, en fait, dans le prolongement de ce que vient de dire Serge Gros, il y a vraiment un tournant dans cette montagne, un tournant qui se situe probablement dans les années 80. Après les 30 glorieuses, c'est vraiment les 30 capiteuses, les 30 financières. Et la montagne n'a pas échappé à cette dérive. Et effectivement, du modèle qui était celui d'une montagne partagée et qui était une montagne où on préservait l'agriculture l'été, on est passé à un modèle du tout neige où il fallait absolument sauvegarder les équipements, voire les développer. Et pour sauvegarder les équipements et les développer, on construit et on construit encore. Et en ce faisant, on oublie d'où on vient, on oublie les centres de vacances, par exemple, qui avaient fait, et les classes de découverte, qui avaient fait la richesse de cette montagne partagée.
C'était le cas de Courchevel, hein, d'ailleurs, au
c'était
départ.
C'était le cas de populaire. Courchevel, c'était le cas de Champs-Rousses, qui ont été pensées comme des stations sociales, et aujourd'hui qui sont des stations pour des clientèles extrêmement riches. Donc on a basculé dans un ultralibéralisme où effectivement on va aménager, construire, aménager sans point d'arrêt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frein dans la machine. Et aujourd'hui il y a énormément de lits à construire encore et encore sur cette montagne. Parallèlement, les clientèles les plus jeunes et les moins aisées sont exclues parce que les prix à la fois des hébergements, à la fois des forfaits sont de plus en plus élevés. Les centres de vacances qui avaient fait justement l'histoire se meurent parce qu'ils ont été oubliés et puis parce que dans cette dérive-là, personne n'a misé sur leur rénovation. Et puis les jeunes actifs, ceux qui vivent eux de la neige, sont obligés de se loger de plus en plus loin parce que le foncier ne cesse de grimper. Et le foncier qui grimpe, qui est une valeur spéculative, c'est aussi exclusif et ça rencontre le problème de l'agriculture de montagne qui est cette fameuse, ce lien avec l'homme, l'animal, la pente qui a toujours existé et qui aujourd'hui est une agriculture de résistance et que nous voudrions être une agriculture de reconquête. Donc aujourd'hui, la question, c'est de se demander, en raison de tout ce qu'on sait et qui nous arrive sur la tête, et entre autres le changement climatique, oui, mais toutes les craintes autour de la biodiversité, de la ressource, et particulièrement de la ressource en eau, est-ce que nous avons un projet pour la montagne? Est-ce qu'ensemble, Français, Rhône-Alpins, jeunes, les jeunes qui justement feront la montagne demain, avons une visée, un dessin, un objectif pour la montagne demain, ou est-ce que nous voulons simplement rester dans cette courbe d'asservissement finalement à un modèle touristique qui est d'une certaine manière exclusif d'une partie des populations?
Et si vous nous écoutez aussi dans les Pyrénées, d'ailleurs on ira faire un petit tour tout à l'heure, bien c'est aussi les mêmes questions. Je reviendrai bien sûr avec vous sur cette opération Montagne 2040 et puis sur d'autres pistes de réflexion. Freddy Meignan, vous aussi donc à Grenoble, vous êtes le président de Mountain Wilderness, donc c'est une association qui a été créée il y a à peu près 25 ans par des alpinistes de renom. Et vous avez lancé, donc c'était un coup de gueule, hein. Vous avez lancé un appel pour la montagne que l'on peut retrouver sur le site de CO2 Mon Amour. Et qu'est-ce que vous avez voulu faire?
Oui, bonjour Denis, bonjour tout le monde. Oui. Sur le constat que vient de faire Claude et Comet et Serge Gros, c'est que maintenant, il y a besoin ensemble que le monde de la montagne se prenne en main et qu'on réfléchisse, quoi. Parce qu'on en arrive aujourd'hui, en fin de compte, au départ, c'était l'or blanc. Maintenant, on en arrive un peu à un appauvrissement de la montagne, de tout point de vue. Et alors, l'appel pour nos montagnes dont vous venez de parler, c'est en fin de compte, c'est une campagne d'opinion inédite et qui a juste 3 mois et qui rencontre déjà un sacré succès, qui a été porté au départ par 3 associations, Montagne Wilderness, la CIPRA, et puis l'Association nationale des centres de ski de fond.
Pardonnez-moi,
qui a été rejointe la CIPRA, lancée par 140 personnalités. Et il faut le noter parce que c'est rare dans le monde de la montagne. Il y a des alpinistes, bien sûr, comme Catherine Destivelle, ou des navigatrices comme Isabelle Autissier, mais les maires, des députés, des maires de Briançon, de Chambéry, de Chamonix, de Grenoble, des entreprises, des parcs nationaux, des associations. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, Laurent Chapy, par exemple, qui était le créateur de Courchevel dans l'état d'esprit dont a parlé Serge Gros, Marcel Pérez, qui était un préfet, qui a été préfet, pardon, et directeur de l'École nationale de ski et d'alpinisme. Bref, et puis beaucoup de citoyens.
Donc tout le monde réfléchit, se dit aujourd'hui, comment prendre son avenir en main.
Voilà, il y a 5500 personnes qui ont déjà apporté le soutien à cette démarche-là. Donc comment prendre notre avenir en main? Parce qu'il y a nécessité aujourd'hui, je dirais, ça c'est mon avis à moi dans ce débat, d'une révolution culturelle, au mieux d'une révolution culturelle, au minimum de retrouver de l'ambition, de l'imagination, de la créativité pour un territoire qui est exceptionnel. Et on n'a pas le droit de le gâcher, quoi. On s'est un peu enfermé dans une démarche très financière dans la dernière période, mais quand on regarde, il y a des atouts, il y a énormément d'atouts. Moi, y compris dans le rapport des habitants de notre pays à la montagne. Aujourd'hui, depuis ces dernières décennies, il y en a, je crois, 80% de la population qui est citadine. Mais il y a besoin de nature, il y a besoin de ce repère de nature. Or, ça se manifeste dans une recherche vis-à-vis de la montagne qu'on n'a pas su encore bien travailler.
Alors Claude Comet, pardonnez-moi, parce que là, je ne vous ai pas en face de moi, donc sinon on ne va pas s'en sortir. Mais Claude Comet, lorsque l'on dit par exemple, hormis le ski, point de salut en montagne, comment vous réagissez?
Moi je dis que c'est 30 ans de communication des stations elles-mêmes qui ont effectivement dit « Venez faire du ski chez nous ». Et on n'a pas parlé d'autre chose. Et on n'a pas parlé de cette dimension de spiritualité, de tous ces bienfaits en termes de contentement, de ressourcement qu'apporte la montagne. Je ne vous parle même pas de biodiversité, etc. Mais il y a des milieux comme ça qui sont absolument magiques. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a la mer et la montagne qui sont porteurs d'un certain lyrisme, d'engagement. Mais cette dimension-là, ça fait 60 ans qu'on n'en parle pas. Et c'est important aujourd'hui d'en parler. Alors on vous dit, les jeunes, par exemple, ça les ennuie la montagne l'été. Oui. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Nous avons été des générations à être portées par cette envie de montagne, par avoir fait ce rêve de montagne. C'était une montagne d'été, une montagne où grondent les torrents, une montagne où on entend les clarines, où on peut s'arrêter dans l'herbe. C'est pas une montagne où on entend que le clic-clac des skis et le bruit des remontées mécaniques. C'est une montagne généreuse, ouverte et humaine. C'est ça qui nous fait vivre et qui nous fait rêver. Et je crois que cet appel, c'est pas seulement les gens de la montagne qui doivent le porter, c'est l'ensemble de la société. De quoi on a envie pour demain sur ces territoires comme la mer, comme la montagne, qui sont si riches en biodiversité. Je voulais dire juste un petit point. Le Massif central vient de faire une étude absolument extraordinaire sur ce qu'on appelle les aménités positives. Alors, c'est des jargons, mais ça veut dire les bienfaits que la montagne apporte à la société.
Et qui ne sont pas comptabilisés, qui ne rentrent pas dans le PIB. On va dire.
Aujourd'hui, pas comptabilisés. Oui, on revient au bonheur intérieur brut.
C'est ça.
Effectivement, qu'est-ce que nous apporte la qualité de l'air, les espaces, les paysages, le foncier agricole, effectivement, pour aujourd'hui et pour demain? Voilà, ce sont des vraies questions pour l'avenir, parce que je crois qu'effectivement, il s'agit bien d'une révolution culturelle.
Eh bien, c'est parfait de se les poser dans cette émission. En 2 minutes 30, on va dégourdir un peu les jambes. Pas forcément une descente, je ne sais pas, en raquette peut-être. Allez, ce sera après Soufiris Maracas et on se retrouve.
Alors, à votre avis, quels sont les défauts principaux de Jean-Claude?
Il est raide comme un piqué.
Et puis, il plante pas son bâton.
Allez, surtout très en arrière.
Attention, j'ai pris de la vitesse.
C'est au de mon amour, Denis Chessou.
En rade à la dorade, je passe le temps qui me passe sous le nez. J'écoute le swing, je picole un peu en attendant que ça aille mieux. Et mes envies sont aussi lisses que l'archer qui sur le violon glisse, me délivrant de mes tensions, affranchissant de tous mes vices. Et je m'en fous, je me sens bien, la musique vous va si bien. Quand vous dansez vos émotions et oubliez vos conditions d'alcoolique et de gens perdus qui déambulent dans la rue. Arrive à ceux qui sont ailleurs, attendre qu'ils fassent meilleur. Sur la paroi de vos angoisses qui m'indiffèrent pas ailleurs, l'amour dans ce monde dégueulasse, l'incertitude de l'avenir. Et comme une impression tenace, la sensation qu'il faut partir, ne pas mettre le pied dans la nasse. Du pognon et de la tirelire, vous comptez vos souvenirs, vérifiant qu'il ne manque pas la musique à vous fait languir. Celui qui sautera dans vos bras, celui qui vous fera enfin rire, vous emmènera au cinéma, vous proposera de vous enfuir. En vélo jusqu'au Sahara, en vélo jusqu'au Sahara. Un peu de patience, mademoiselle, celui qui vous coupera les ailes n'est pas encore prêt de venir. Il a décroché un contrat pour assurer votre avenir. Lui qui se voit déjà papa, il veut pour vous faire plaisir, vous voir en robe d'apparat. Mais il n'a plus le temps de vivre, de vous voir ou de vous sourire. Il est rongé par le travail et vous n'osez pas lui dire la profondeur de votre mal-être, les détails de votre lassitude, même si ça va de pire en pire. Demain ça ira mieux peut-être, alors à la fin vous dansez, vos idées noires faites valser sur un air de swing ravageur. Entretenez secret espoir qu'un soir il rentrera fatigué, comme frappé par le malheur, et vous dira me suis fait virer. Faites tes valises, on part ce soir, et ce jour-là vous le suivrez, et vous traverserez la rive. Le monde sera toujours meilleur s'il faut partir à la dérive. Après tout, l'essentiel pour vous n'est-il pas de vous sentir vivre à Babel Oued, à Katmandou, en vélo ou au sang. En vélo ou au sang. En rade à la dorade, je passe le temps qui me passe sous le nez. J'écoute le swing, je picole un peu en attendant que ça aille mieux. Et je donnerai n'importe quoi pour être celui qui danse avec toi, celui qui te proposerait de partir en vélo jusqu'au sang. En vélo jusqu'au sang. En vélo jusqu'au sang.
Mais le vélo, ça vous mène partout, oui, vélo jusqu'au Sahara. Bah là, c'est plus, on peut faire le tour du Mont Blanc. Bah oui, Eric Fournier le sait. Le maire de Chauvigny, qu'on va rejoindre dans quelques instants. On le fait aussi à bicyclette. Auparavant, j'aimerais quand même que nous fassions une petite incursion dans les Pyrénées, parce que Stéphane Combe, mon assistant, a eu au téléphone Francis André, qui est responsable d'une association pour les vallées pyrénéennes de la Sceaux et de la Géla. C'est très, très beau. Alors là aussi, réchauffement climatique, on n'y coupera pas. On va revenir donc sur ce thème. Donc, que se passe-t-il là-bas, dans ce département des Hautes-Pyrénées ?
Alors, il faut savoir que nous avons deux stations de ski dans la vallée du Louron, la station de Val-Louron et de Peyragudes. Dans la vallée d'Or, il y a Saint-Lary qui reste un des fleurons, je dirais, du ski pyrénéen. Et sur la route d'Espagne, un peu en amont, la station de Puyo-en-Galie. Et le projet donc, qui est en cours actuellement, c'est de permettre aux Espagnols de pouvoir se loger sur l'Espagne, de traverser le tunnel et de gagner 20 minutes en voiture pour avoir un petit domaine skiable de 8 km. Pour un coût total de près de 55 millions d'euros, ce qui est énorme quand on le ramène au prix du kilomètre de ski.
Donc vous estimez que c'est une dégradation de l'environnement de cette partie des Pyrénées ?
Alors c'est une dégradation d'une part économique et surtout de l'environnement de ce secteur-là, puisque la vallée de la Géla est à la limite du parc national des Pyrénées. Elle est sur le site mondial de l'UNESCO et dans ces deux vallées, il y a une richesse floristique et faunique qui est extraordinaire. En plus, un haut lieu de la randonnée l'été du mois de mai au mois de septembre. Ce sont des milliers de gens qui viennent découvrir cette vallée de la Géla avec une des plus belles parois des Pyrénées, qui est la paroi de Baroud. Donc c'est un sanctuaire, c'est un joyau. Et nous nous battrons pour garder ce site contre des aménageurs qui, de toute façon, une station de ski, eh bien, ça ouvre les pentes, ça déchire tout. Et on ne veut pas que ce domaine-là soit soumis demain à des promoteurs.
Si l'enneigement baisse chaque année, et si avec le réchauffement climatique, les choses se compliquent à moyen et long terme, comment voyez-vous l'avenir des Pyrénées, notamment en période hivernale ?
Il va falloir qu'on diversifie l'action. Il faut arrêter de vendre, bon, si les Alpes ont de la neige, tant mieux, eh bien, essayons de diversifier toutes nos actions vers un autre tourisme qui n'est plus que de faire du ski à tout va.
Qu'est-ce que ça serait, Francis André ?
Il y a la randonnée, il y a la randonnée hivernale. Donc il suffit simplement d'amener nos touristes qui arrivent de Paris et qui en une heure de route aperçoivent des oliviers, des amandiers. C'est aussi le côté espagnol. La montagne espagnole est d'une richesse inouïe toute l'année. Donc essayons de faire découvrir ce côté harmonieux et magnifique que sont nos vallées pyrénéennes. jeunes, autant françaises qu'espagnoles.
Et Francis André, vous pensez vraiment que les jeunes qui sont actuellement en train de faire du ski ou du surf, du snowboard sur vos pistes, à moyen et long terme, ils auraient envie de faire de la promenade à travers les sapins ?
Mais je vous l'accorde. C'est vrai que c'est difficile parce que les mordus du ski resteront toujours les mordus du ski. Mais si on doit perdre quelques jeunes parce qu'ils partiront encore sur des mantons les jeux alpins, eh bien ils partiront. Donc à nous d'être bons. Nous avons des qualités quand même entre le soleil, la bonne bouffe. Ça fait partie aussi de nos critères pyrénéens. Vivre avec les gens dans les vallées, dans les villages, c'est aussi une façon de passer des vacances, d'aller à la rencontre, de voir le culturel qu'il y a aussi dans nos petits villages partout. Moi, je souhaiterais que l'agriculture reprenne de l'essor parce que la source de vie de la montagne, c'est aussi l'agriculture. Et c'est vrai que la revitalisation des sols est un problème important. Donc il faut essayer à tout prix de maintenir ce tissu d'agriculteurs et de bergers qui sont la source de vie de tout notre patrimoine et surtout l'entretien de toutes nos belles montagnes.
Merci à vous Francis André, donc au micro de Stéphane Combe. On retrouve des problématiques qui sont communes, hein, quels que soient les massifs. Problématiques que vous connaissez bien Éric Fournier parce que vous êtes le maire de Chamonix. Bonjour Éric Fournier.
Bonjour Denis, un grand merci pour cette émission consacrée à la montagne.
Bah écoutez, on aime ce milieu-là, ici dans cette émission, on en parle relativement peu, on parle très souvent de la mer, alors il ne s'agit pas de l'opposer. De même que d'ailleurs, je crois que vous l'avez compris, on n'oppose pas le ski, ce n'est pas une émission anti-ski, notre affaire c'est de se dire comment on arrive au bout d'un système aujourd'hui, on est dans un monde fini et si on continue comme ça, de toute façon, il y aura un arbitre qui va être entre autres le réchauffement climatique et l'énergie. Alors justement, vous, Éric Fournier, à Chamonix, bon, on ne parle même pas du lieu, il est connu et tant mieux mondialement, c'est la rockstar de la haute montagne, mais vous êtes une des premières communes de montagne à anticiper, vous avez lancé un plan d'anticipation du réchauffement et là, en fait, ça rigole pas, il faut juste rappeler parce que des gens vont nous dire, moi j'avais reçu un mail de gens qui disent « Attention, ne dites pas n'importe quoi, il y a eu énormément de neige cette année, donc le réchauffement climatique, dont on nous rebat les oreilles, c'est faux. » Bon, à part que la réalité vraiment étayée par les climatologues, par les gens de Météo France, par des chercheurs internationaux, montre bien que les Alpes se réchauffent trois fois plus vite que d'autres milieux, qu'on a gagné déjà 1,5 degré. Et vous le voyez. Comment ça se traduit, Éric Fournier, le réchauffement chez vous ?
Oui, alors, tout à fait. Hein. Il ne faut surtout pas confondre un hiver avec beaucoup de neige et on s'en réjouit. On a un hiver fabuleux et c'est un grand moment de bonheur extérieur brut cette fois-ci dès qu'on lève le nez. Et puis le réchauffement climatique qui est absolument incontestable en zone de montagne. Les glaciers, effectivement, de tous les grands massifs montagneux du monde subissent des agressions très fortes. On parlait il y a un instant du Népal et c'est pareil partout.
Donc nous, pardonnez-moi chez vous, donc la mer de glace, j'ai vu, a perdu 80 mètres d'épaisseur en 20 ans et le front recule de 30 mètres par an actuellement. Hein.
Oui, c'est sans doute l'un des derniers glaciers qui restera à terme, mais pour autant, il faut agir extrêmement vite. Serge Gros le disait, tout est amplifié en secteur de montagne, donc il faut agir beaucoup plus vite. Et je crois que notre souhait, à travers justement ce plan climat-énergie, qui est le premier plan climat-énergie des zones de montagne, c'est de mettre en place du concret immédiat sur le transport, sur l'habitat, sur l'aide à la rénovation thermique des bâtiments, pour montrer comment finalement ce site emblématique qu'est Chamonix, mais qui le fait avec humilité, parce que c'est plutôt un porté à connaissance qu'on voudrait donner aussi aux collègues, aux autres massifs français et européens, eh bien comment ces pratiques peuvent concilier la pratique de la montagne de demain, parce qu'il ne faut jamais oublier, ça a été bien rappelé, la dimension sociale de la montagne, la dimension humaine, il y a des hommes au pied de ces montagnes, et un tourisme qui s'est développé. À Chamonix, on dit on a l'esprit pionnier depuis 1741, alors ça va plus vite qu'ailleurs, et j'espère qu'on va pouvoir montrer ce qu'on fait concrètement pour se mettre à la page de ces grands enjeux qui nous touchent.
Alors Éric Fournier, lorsque l'on regarde un bilan carbone, on va dire d'une manière générale de la montagne, près de 60% de ces bilans carbone, c'est le transport, c'est le transport des personnes. Après, ça va être le bâtiment. Après, il y aura donc les activités liées à la pratique du ski, mais enfin, ce n'est que 2% aujourd'hui. Et c'est sur le transport que vous souhaitez agir. Alors que ce soit d'ailleurs du transport de gens qui travaillent à Chamonix mais qui ne peuvent pas se loger à Chamonix, qui donc redescendent dans la vallée, c'est-à-dire en gros bureau bureau travail, travail bureau, les gens qui viennent de l'étranger, et puis bien sûr les Français et les résidents. Alors comment on peut faire? Qu'est-ce que vous faites?
Alors des actions très concrètes, nous allons dès le 2 avril engager des travaux, alors ça a mis quelques années, hein, ça ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique, mais quelques années de négociations avec les collectivités et puis avec les partenaires. Le 2 avril commence des travaux dans la vallée qui visent à rénover complètement la ligne ferroviaire, oui. Et nous allons doubler le nombre de trains dans chaque sens pour justement les déplacements domicile-travail et puis les déplacements de nos touristes. On a mis en place aussi un système qui est un système de libre circulation, c'est-à-dire qu'on incite tous nos hôtes, qu'ils soient permanents ou occasionnels, eh bien, à prendre le transport collectif et au contraire, eh bien, on facilite pas trop les déplacements en véhicule individuel. Et puis effectivement, il faut une action de grande envergure pour l'accès et le développement d'un ferroviaire de qualité vers nos stations. Ça, c'est une autre échelle territoriale. Mais il faut absolument que les investissements soient faits sur le réseau ferroviaire qui est lacunaire sur d'autres territoires nationaux. Et puis, un travail très fort sur la rénovation thermique des bâtiments. Nous sommes en train d'étudier une aide fiscale à l'adaptation des modes de chauffage, par exemple. Vous savez, on a un facteur de 1 à 70, par exemple, selon qu'on puisse avoir un foyer ouvert, un petit peu à la mode des bronzés. Hein, on met quelques bûches dans le feu. C'est 70 fois plus polluant que si on a un dispositif de qualité, toujours avec le bois, mais qui consomme 98% ou 99% de la ressource énergétique.
Alors, est-ce qu'on n'est pas parfois, pardonnez-moi, parce que là on voit bien que vous êtes un maire tout à fait entreprenant, et puis ils ne sont pas si nombreux que ça. Hein.